1, 2, test, test, micro.
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 Microscopie.
La société au microscope.
Bonjour et bienvenue dans Microscopie. Pour 4 Français sur 5, être propriétaire est la solution en matière de logement. Ça, c'est dans l'idéal, car dans la réalité, le chiffre est un peu différent. Il est de 57% de propriétaires dans l'Hexagone. Un chiffre qui place la France plutôt dans le bas de la moyenne européenne. On en reparlera. C'est 68% en Grande-Bretagne, 68% en Italie, 85% en Espagne, mais 31% en Suède, par exemple. On voit donc, à travers ces deux chiffres, que l'accession à la propriété est le projet de nombreux Français. Et bien sûr, pour les plus modestes d'entre eux, cette aspiration tient souvent, parfois en tout cas, de la gageure ou du risque, parfois inconsidéré. On mesure aussi l'enjeu politique et électoral qu'il y a derrière cette question de l'accession à la propriété. La dernière élection présidentielle en fut d'ailleurs une illustration, puisque le président de la République avait, dès le début de sa campagne en 2006, annoncé sa volonté de faire de la France un, je cite, pays de propriétaires. Qu'est-ce que cela signifie, un pays de propriétaires? Quelles sont les conditions à réunir pour y parvenir? Est-ce souhaitable, tout simplement? Tout le monde peut-il devenir propriétaire? Pourquoi ce rêve d'accession à la propriété d'ailleurs? L'achat de son logement individuel est-il l'Everest de chacun, la preuve de sa respectabilité et le moyen de s'ancrer dans un projet social d'avenir? Les politiques publiques sont-elles efficaces? Autant de questions, entre autres, que nous poserons aujourd'hui à nos invités, deux profils très différents, pour nous essayer, dans le contexte de crise, de nous éclairer sur les enjeux de société liés à l'accession à la propriété. Isabelle Coutant, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS et spécialiste de la sociologie urbaine et des classes populaires. Classes populaires, justement, celles pour lesquelles l'accession à la propriêté représente un enjeu majeur et revêt une forte, peut-être encore plus forte valeur symbolique. Vous venez de participer à la rédaction d'un ouvrage collectif intitulé « La France des petits moyens », enquête sur la banlieue pavillonnaire, une enquête qui met en lumière plusieurs parcours individuels d'accession à la propriété dans une banlieue populaire de la banlieue parisienne. C'est une nouvelle catégorie socio-professionnelle, les petits moyens.
Non, c'est un terme
qui vous a été soufflé par une enquêtée.
Voilà. Quand on leur demandait un petit peu comment ils se positionnaient socialement, ils disaient on n'est pas petit-petit, mais on est petit-moyen. Donc on a choisi de reprendre ce terme.
Nous recevons également Bernard Worms. Alors vous êtes le directeur général de l'Agence nationale d'information sur le logement. Vous nous apporterez plutôt des éclairages sur le plan des enjeux économiques et des politiques publiques, on va dire, pour aller vite. Mais pour commencer, je vous propose d'aller dans un autre quartier populaire, non loin de votre terrain d'enquête, Isabelle Coutant. Il s'agit du quartier de la Saussée à Saint-Denis, c'est aussi en banlieue parisienne. Et là-bas, la communauté d'agglomération a lancé, grâce à l'intervention d'une coopérative, la construction de 15 maisons en accession sociale à la propriété. Aline Leclerc est allée interroger les futurs propriétaires qui sont aujourd'hui locataires en HLM. Et bien souvent, ils voient dans cette future maison comme un aboutissement.
Microscopie@rfi.fr.
Ça fait au moins une vingtaine d'années que je rêve d'avoir ma propriété.
Ça a toujours été un rêve d'être propriétaire, d'avoir ma maison pour mes enfants. Et c'est à nous. Voilà,
pas tout à fait la première pierre, mais bon, on va dire que c'est la première pierre de cette maison.
On se sent un peu plus chez soi. Voilà. En quelque sorte.
Allez, un coup de masse. C'est ta maison, Alain.
Au moins, on pourra dire qu'on a laissé quelque chose pour les enfants.
On va travailler en espérant qu'ils reproduisent la même chose pour leurs enfants par la suite.
Quand vous fondez une famille, vous avez des enfants, c'est super, c'est inimaginable. Et après, être propriétaire, alors là, c'est, je crois, la finition d'une famille.
Ah, maintenant, j'ai vu une photo. Tout à l'heure, je ne voulais pas. Alors, attends, tu me mets là.
Donc Leïla, donc on est vie maritale, j'ai deux enfants et puis jusque là en fait on habitait sur la plaine Saint-Denis et puis y a eu ce projet qui nous intéressait et c'est vrai que sur le marché par rapport aux maisons et aux prix ça correspondait pas du tout à notre budget et puis c'était impensable qu'on puisse acquérir maintenant quoi.
Combien vous payez aujourd'hui de loyer là-bas?
On paye à peu près on va dire 700 €.
Et donc là vous allez payer combien de...
1 400 €.
Ça fait une différence de 700 €?
Oui.
Là, vous avez un apport ou vous avez pris un emprunt? Comment vous faites pour financer?
Là, on a pris un emprunt. Donc, on a un petit apport et le reste, ce sera des mensualités. C'est un emprunt.
Pour combien d'années?
Pour 25 ans.
Vous avez quel âge?
33 ans. Donc, quelque part, de toute façon, on paye des loyers. Donc, autant payer quelque chose qui, plus tard, sera à nous. Hein.
Ça va pas être trop dur à avancer. Parce que, en gros, ça double votre loyer de venir acheter cette maison.
Oui. J'espère que d'ici la retraite, bah, j'aurai plus de loyer à payer. Hein, quand, surtout que je pense que ça sera des petites retraites. Donc je sais qu'après, j'aurai une grande sécurité dans le sens où bah, je serai propriétaire, ce sera ma maison et j'aurai pas ce souci en plus de payer un loyer.
Alors, bah, je m'appelle Nora, j'ai une fille qui a 22 ans.
Vous vivez en couple avec un enfant?
Voilà, exactement.
Et jusqu'ici, vous êtes tout dans, en appartement,
en
HLM?
En appartement HLM, 62 mètres carrés.
Et là, combien de mètres carrés vous allez avoir?
85.
Ah, vous dites ça avec un grand sourire.
Oui.
Anne Vauvray, je suis directrice de la coopérative d'accession sociale de Pleine Commune. Quand on a commencé à commercialiser, on a envoyé en priorité la plaquette de commercialisation à tous les locataires de la cité La Saussée. On a dû envoyer 450 plaquettes et on a 80 personnes qui nous ont répondu en nous disant oui, ben, on est intéressés.
Ces 15 maisons-là, elles sont financées comment en fait?
Alors, il y a une subvention de 10 000 euros de l'Agence nationale de la rénovation urbaine par logement. Donc ça, c'est d'un côté. Et après, c'est un financement autonome, j'allais dire, dans la mesure où la coopérative emprunte pour faire les travaux, revend à des gens qui accèdent et qui eux-mêmes empruntent. Voilà, donc il n'y a pas de subvention. L'équilibre financier, il se fait avec vraiment une entrée et une sortie pour la coopérative. Et puis après, des gens qui empruntent sur 15, 20, 25 ans pour financer leur maison. Alors, la maison de 4 pièces coûte 188 000 euros. Elle devrait être en prix coûtant à 198 000, mais la prime en rue permet de la redescendre à 188 000. Et la maison de 5 pièces est à 228 000 euros.
Très en dessous du prix du marché, quand même.
Très, très en dessous du prix du marché.
Donc ça s'explique comment, en fait?
Alors, ça s'explique par plusieurs raisons qui sont inhérentes au statut de coopérative. La première raison, c'est le foncier. Des fonciers avec des conditions privilégiées qui permettent de baisser le prix. Comme c'est une coopérative qui est quand même appuyée sur une collectivité territoriale, il y a des conditions un peu privilégiées du terrain. On va dire que le terrain est un peu moins cher. La deuxième raison, c'est la commercialisation. C'est-à-dire que dans ce processus que nous avons avec nos locataires de mettre un article dans le journal, d'envoyer une plaquette à une certaine cité, on n'a pas besoin de se payer une bulle avec un commercialisateur pendant 18 mois, voilà. Donc on fait des économies de ce côté-là. Et puis la troisième raison qui n'est pas la moindre, c'est la marge. C'est-à-dire en tant que coopérative, la coopérative fait bien entendu une marge puisqu'il faut qu'elle fonctionne, mais il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer et ça change quand même pas mal de choses.
Depuis le temps qu'on commence à avoir une quarantaine d'années, bon, je pense qu'on est assez mûr pour s'engager, contrairement à des jeunes qui ont 25 ans, qui peuvent se casser la gueule malheureusement, d'investir pas trop au bon moment.
Parce qu'il y a un risque pour vous?
Bien sûr qu'il y a un risque, surtout au jour d'aujourd'hui avec la crise actuelle, parce qu'on peut toujours perdre son emploi au jour d'aujourd'hui. Pour moi qui travaille dans le privé, du jour au lendemain, je peux être licencié.
Comment vous financez cette maison? Vous avez un apport?
Oui, ou... voilà. Heureusement qu'on a un bon apport. À peu près 38%, 40% du montant. Donc
sur
ça va,
ans.
Sur 16 ans, pas plus. Donc ça, on arrivera juste à la soixantaine. Et ça, je pense que ce sera une bonne acquisition.
Là, est-ce que, en fait, vous, compte tenu de vos salaires, vous pensiez pouvoir un jour acheter une maison, en fait?
Non, je ne pense pas. Avec les deux salaires qu'on a, non. On aurait pu peut-être, mais ça aurait été une maison sur 25 ans.
Je m'appelle Christian, ben, on est une famille de 4 personnes. Et on habite en ce moment dans un logement à Saint-Denis.
Dans un logement social?
Voilà. C'est pas comme les HLM, mais les HLM, ça ne nous appartient pas. Tandis qu'ici, il y aura beaucoup plus de précautions. Hein. Se bichonner la maison, quoi, si on veut dire.
Vous allez plus bichonner ici parce que c'est chez vous?
Et je pense que tout le monde, c'est pareil. Hein. Je pense que la majeure partie des gens bichonnent plus ce qui leur appartient.
Vous avez l'impression que dans votre vie, finalement, ce sera une réussite d'avoir cette maison?
Tout à fait. Tout à fait. On a attendu, puisqu'on est un peu en retard, puisqu'on est un peu âgé. Enfin, âgé, c'est beaucoup de dire.
Quel âge vous avez?
J'ai 50 ans. Donc, on est un peu sous le tard, mais quand même, je pense que ça va être une réussite. Ça va être quelque chose de bien fait pour nous, quoi. Parce que nos enfants sont encore jeunes, il y a le confort, et ensuite aussi la sécurité.
Ça va être un crédit sur combien d'années, vous savez?
Sur 20 ans, mais modulable. Donc, je pense qu'on aura moins de trade avant les 20 ans, quoi.
Vous espérez rembourser avant la fin?
Oui. Ah oui. C'est mon objectif, rembourser avant la fin. Hein.
Du coup, est-ce que vous, ça vous oblige à repenser votre budget en fonction de ça?
Oui, on enlève la différence. Depuis le mois dernier, on enlève la différence de la somme et on met de côté.
Est-ce que je peux vous demander de combien, en fait?
Eh bien, c'est simple, on était à 640 euros de loyer et là, on va être à 1047. Mais on va arriver à gérer. On n'est pas difficile. On en parle autour de nous, déjà. La famille est contente et tout. C'est une fierté. C'est une fierté. D'avoir son chez soi.
Qu'est-ce que vous leur dites précisément à ces gens qui veulent devenir propriétaires? Qu'est-ce que vous leur expliquez sur le fait de devenir propriétaire?
Quand on est locataire du parc social depuis plus d'une dizaine d'années, la première chose, ça va vous paraître un peu bête, mais c'est par exemple, vous n'irez plus voir votre gardien. Le jour où vous avez un souci, le jour où le chauffage est en panne, le jour où vous ne pourrez plus aller à la loge du gardien. Donc se responsabiliser, faire le compte de tout ce qu'on paye en plus quand on est propriétaire. La taxe foncière, en général, ils ne savaient pas. Savoir que leur assurance, là, il va falloir vraiment qu'ils s'en occupent. Enfin, ils le font normalement aussi quand ils sont locataires. Savoir qu'il faut que même au-delà de leur remboursement d'emprunt, il faut qu'ils fassent un petit peu d'économie pour pouvoir entretenir dans le futur. Et nous, on fait très attention à bien expliquer ce que c'est que d'être propriétaire. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'illusion de tiens, je mets mon loyer dans un remboursement et puis tout se passe pareil. Il y a tout un travail pédagogique qui se fait auprès des gens pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que d'être propriétaire.
Finalement, il n'y a pas tant que l'aspect financier qui est revêtu par le mot social, mais il y a l'aspect accompagnement.
Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est revendiqué d'ailleurs par les coopératives, parce que la fameuse spécificité de l'accession sociale, donc dans les trois dimensions qui sont la garantie de rachat, la garantie de relogement, la garantie de revente et l'accompagnement à l'achat en anticipant et en accompagnant un peu derrière.
Microscopie sur RFI, Édouard Zambeau.
Bernard Worms, est-ce que l'Agence nationale d'information sur le logement accompagne, je dirais, éduque les gens, et est-ce que vous pensez que les Français sont éduqués à la propriété? C'est ce que disait cette dame. On leur explique qu'ils n'iront plus voir leur gardien, qu'il faut et que emprunter pour acheter une maison, ça n'est pas transférer son loyer vers le remboursement d'un prêt.
Non, très clairement, c'est l'une de nos missions essentielles. D'ailleurs, l'ANIL a été créée lorsque l'accession a été élargie. Donc il s'agit de permettre aux gens de bien peser leurs choix et de bien analyser leurs projets, de montrer à certains ou de faire comprendre à certains qui ne peuvent pas le réaliser et à d'autres comment le réaliser et quelles en sont les conséquences.
Comment ça se passe concrètement?
Ben, concrètement.
Parce que vous dites la même chose que ce que dit cette responsable de la coopérative.
Oui, mais nous n'avons pas de mission de commercialisation. Beaucoup viennent nous voir avant pour savoir s'ils peuvent. Dans ce cas-là, ils n'ont même pas repéré encore une opération. Donc ils viennent se faire un plan de financement, voir comment les choses se passent, si c'est possible. On fait avec eux un plan de financement, on voit à quoi ça correspond, on évalue l'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera quand mes enfants seront grands en termes d'éducation, s'il y a de nouveaux enfants. Et puis si le projet est possible, à ce moment-là, à eux d'aller sur le marché ou hors marché, mais je considérerais là que la coopérative est sur le marché comme les autres, choisir un opérateur et trouver un banquier, parce que l'accession à la propriété, ça n'est pas la propriété, c'est une affaire de crédit. Alors pas du point de vue symbolique, mais c'est pour ça que c'est un risque. Alors on peut ajouter quand même une chose, parce que les gens ont beaucoup parlé de risque, c'est que c'est forcément un risque, puisque c'est un engagement long avec un taux d'effort important, comparé à la plupart des pays développés, je laisserai de côté l'Allemagne, mais les pays anglo-saxons, nous ne sommes pas des grands amateurs de risques et nous avons peu de risques. Et je reviendrai peut-être sur ce sujet à propos des accidents.
Isabelle Couton, La France des petits moyens, votre livre, c'est un peu la narration sur deux générations justement de cette accession à la propriété. Mais on a l'impression que quand on achète une maison, particulièrement à Pavillon, on achète plus que des murs.
C'est particulièrement vrai pour la génération la plus récente qu'on a étudiée, celle qui a accédé à la propriété dans les années 90. Alors on les a appelés les enfants de cité, parce que ceux en tout cas avec qui on a...
Ils ont traversé la rue, hein, c'est ça, dans votre quartier pratiquement. Ils sortent de l'immeuble d'en face, ils ont acheté dans le quartier pavillonnaire au pied. Enfin,
certains, mais sinon d'autres viennent d'autres cités de la région parisienne. Mais l'idée, en achetant pour ces gens-là, l'idée c'était en achetant dans ce quartier pavillonnaire, c'était de mettre à distance la cité. Et c'était acquérir une forme de respectabilité. Et donc même au-delà de l'accès à un pavillon, à une maison, ce qui compte, c'est le bien-être de la famille et c'est la question de l'avenir des enfants.
Rêve de respectabilité, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Isabelle Coutan. Il y a un point quand même qu'il faut mettre en évidence et qui ressort de ce qu'elle nous a dit, c'est qu'effectivement, on sort du parc social, mais qu'en même temps, en France, et ça n'est pas vrai dans tous les pays, il y a une assimilation, une certaine assimilation entre accession à la propriété et maison individuelle. ce qui n'est pas le cas partout. Par exemple, en Espagne, où tout le monde est propriétaire, on est propriétaire d'appartements. Bon, alors jusqu'où est-on prêt à aller ? Eh bien, en gros, il y a une espèce de norme implicite qui veut qu'on puisse rembourser à peu près 30% de ses revenus, mais ça n'a rien d'une norme écrite. On peut rembourser à peu près 30% de ses revenus nets.
Tout est question de durée ensuite.
Alors, tout est question de durée. Alors, la durée, il faut bien voir que les durées se sont allongées d'à peu près 10 ans au cours de ces 10 dernières années. Mais ça s'est allongé pour une raison mathématique, si je puis dire. C'est que comme le taux des prêts a baissé de plus de 7 ou 8 points au cours de ces mêmes 10 dernières années, il devient très intéressant d'allonger les durées. Ça se traduit, ce qui est quand même important, ça se traduit in fine par un effort plus lourd des ménages, parce que ces mêmes 30% qui souscrivaient pour 16 ans à l'origine, maintenant ils les souscrivent pour 25 ans. Et on peut penser d'ailleurs qu'avec la crise, les durées vont légèrement se réduire.
Isabelle Coutant, ces enfants des cités, comme vous les avez appelés, qui ont accédé dans les années 90 à la propriété, quel est leur parcours ? Parce qu'on parlait de parcours résidentiel. Comment est-ce que se construit aujourd'hui le parcours résidentiel des foyers modestes ? À quoi ils aspirent maintenant ?
Alors, savoir la suite des trajectoires, pour cela, je ne sais pas. Mais par contre, je peux parler effectivement du parcours antérieur et puis aussi de ce qui sont devenus les anciens qui ne sont plus dans ce quartier. On l'a appelé quartier de promotion parce que c'est un quartier justement d'entre-deux. C'est un lieu de passage qui peut être à la fois un quartier de promotion au sens...
Entre la précarité des grands ensembles et le périurbain riche, vous dites.
Voilà, et puis pour les générations des années 60, ce sont des gens qui tous ont en commun, que ce soit ces propriétaires des années 60 et ceux d'aujourd'hui, d'être les premiers dans leur famille à accéder à la propriété, qui souvent partent avec aucun capital, quasiment, et qui ont en commun aussi d'être dans des trajectoires professionnelles de promotion par rapport à leurs parents.
C'est la matérialisation de cette ascension sociale.
Voilà.
En quoi est-ce que c'est différent des pavillons ouvriers du lendemain de la guerre ?
Alors, ce qui nous a intéressé, c'est justement, ce ne sont pas des ouvriers. Ils ont plus, les habitants, en tout cas des années 60, ils avaient en commun non pas une égalité de conditions, mais une égalité d'ambition. Donc, il y a ce qui faisait qu'il y avait une espèce d'ambiance d'égalité comme ça dans ce quartier. Alors même qu'on cohabitait à la fois des ingénieurs, des cadres maison, des ouvriers qualifiés.
Vous avez remarqué, vous, une homogénéisation de ce quartier ?
En tout cas, on a remarqué une grande homogénéité du style de vie, qui était lié au fait que c'était tous de jeunes ménages, primo-accédants, parents de jeunes enfants, qui venaient tous des milieux populaires. Et en fait, il y a eu comme ça un peu une invention d'un style de vie, parce que c'était des gens qui venaient pour grande partie de différentes régions de France. C'est vraiment décrit comme une période d'intense sociabilité. Donc ce qui contraste avec les représentations qu'on a aussi parfois du monde pavillonnaire, comme un monde du repli sur soi, de l'individualisme, qui fait que souvent c'était mal vu, en tout cas dans les milieux politiques de gauche, et aussi dans le monde de la recherche en sciences sociales, hein, les représentations du propriétaire de pavillon modeste dans les sciences sociales, longtemps, ça a été celle du petit bourgeois.
On en parlera justement dans la deuxième partie de cette logique droite-gauche, justement, représentation. Juste une dernière question. Pourquoi le pavillon, à l'un et à l'autre ? Pourquoi l'accession à la propriété en France, c'est le pavillon ?
Alors écoutez, juste pour reprendre ce que disait Isabelle Coutant, c'est que les élites au sens large n'ont jamais aimé la maison individuelle globalement, et on retrouve une enquête de l'INED de 1945 qui montre que 45% des Français, avant que l'accession à la propriété ne démarre, parce que ça, les grands flux datent des années 70-75, voulaient la maison individuelle. Bon, mais la maison individuelle, je dis les élites au sens large, hein, ce n'est pas... Eh bien, c'était effectivement la banlieue, c'était très mal vu. Et toutes les politiques publiques essayaient de privilégier le collectif face à une demande très forte d'individuel. Mais sur ce que vous disiez, je voudrais revenir un instant sur ce que vous disiez, de que deviendront ces quartiers. Ben, on ne peut pas isoler la maison. Le parcours de promotion sociale dont vous parlez, eh bien, s'il s'arrête... Eh bien, ça serait un problème pour ces quartiers. Si ce parcours se poursuivait, ces quartiers évolueraient également. La maison n'est pas un élément qu'on peut séparer des autres éléments de promotion sociale.
Pas à pas, les gens ont vocation à changer. C'est l'ethnologie de la petite mobilité sociale, vous dites, Isabelle Coutant. On se retrouve dans 10 minutes. Le temps de retrouver toutes les infos du monde sur RFI. On reprendra cette discussion en compagnie d'Isabelle Coutant, sociologue, et de Bernard Worms, le directeur général de l'Agence nationale d'information sur le logement. A tout de suite donc.
le logement était assez peu un facteur de disparité et d'inégalité patrimoniale dans les années 90, c'est devenu un facteur important d'inégalité patrimoniale du fait de l'augmentation des prix. Dans une société où il y a plutôt moins de prévoyance collective qu'auparavant, il faut de plus en plus disposer d'un patrimoine.
Microscopie.